Je suis en compagnie de Vincent Message. On est accueilli à la Maison de la Poésie à Paris. Nous sommes dans un très beau lieu, la bibliothèque. Nous parlons de Cora dans la spirale, ton nouveau roman, Vincent, qui vient de sortir pour cette rentrée littéraire de septembre. C'est aux éditions du Seuil. Quelqu'un, Mathias, raconte par le détail un moment de vie qui se terminera par un drame dont nous n'aurons connaissance qu'à la fin. 3 années de la vie de Cora Salm. Je vais te lire en introduction. Qui lira cette chronique de la vie de Cora Salm, le récit de ces 3 années qui ont changé sa vie et l'ont presque détruite? La première fois où je me suis aventuré à évoquer le projet d'une voix que je contrôlais mal, elle m'a regardé avec un étonnement sans fond. Elle aspirait à la distance et à la lucidité qui lui ont tellement fait défaut au temps de la guerre sans nom que je vais raconter. Cela ne l'empêchait pas d'avoir, en cet automne de l'année 2010, une conscience nette du monde dans lequel elle venait de donner naissance à son premier enfant. C'était un réflexe bien ancré chez elle que de chercher partout des informations pour comprendre ce qui définissait, ce qui fermait l'horizon autour d'elle. Peux-tu, pour commencer, nous parler de Cora Salm au moment où on l'apprend dans le récit?
Oui, c'est une femme qui a 30 ans, pas tout à fait encore, elle est née en 81. Cora Salm habite à Montreuil depuis quelques années avec son compagnon Pierre, ils viennent d'avoir une petite Manon. Et le premier chapitre raconte une journée dans sa vie, celle lors de laquelle elle reprend le travail, son travail dans une compagnie d'assurance où elle est au service marketing, qui est dans une entreprise qui s'appelle Borrelia, vers Saint-Lazare. Le roman la suit sur 3 ans qui correspondent à des années de bouleversements intenses dans sa vie, essentiellement liées à ce qui va se produire dans cette entreprise, qui est une entreprise rattrapée par la crise économique des années 2008-2012. Et donc ses conditions de travail, mais du coup aussi sa vie personnelle, sa vie intime, vont être affectées par la crise mondiale. Cora, c'est quelqu'un qui, depuis sa jeunesse, a envie d'avoir une vie qui soit utile aux autres, qui soit une hédoniste, une source d'épanouissement au quotidien, et puis qui laisse des traces. Donc c'est quelqu'un qui écrit, qui tient des carnets, où elle note un certain nombre de réflexions sur le passage des jours, sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle fait. Et c'est aussi quelqu'un qui a une vocation précoce pour la photographie, à laquelle elle a tenté de donner suite pendant plusieurs années. Et puis c'est un milieu très difficile, donc elle n'a pas réussi à percer. Et c'est ça qui l'a amené finalement à prendre ensuite un poste en marketing, histoire de pouvoir se projeter un peu, de construire une famille, d'acheter une maison, d'avoir une vie plus stable. Donc on la prend au début de sa nouvelle vie. Elle parle elle-même de ça, d'une vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est la vie de jeune mère qui veut rester une professionnelle, qui a envie de construire des choses dans son entreprise, qui est assez ambitieuse, mais qui a aussi envie de se réaliser sur d'autres plans, de rester une amante, d'être active politiquement, d'être aussi quelqu'un qui a du temps pour soi, pour rêver, etc.
Cette histoire de Cora Salm, sa vie, ses 3 années de vie, nous sont racontées par Mathias. Mathias, on comprend que c'est un journaliste et qui va avoir une enquête à mener sur la vie de Cora Salm, l'enquête menée pour expliquer le drame qui va se produire et qui nous sera raconté à la fin. Il va disposer pour cela d'un matériel de l'enquête, notamment des carnets et puis des interviews qu'il mène avec l'entourage de Cora Salm, y compris l'entourage professionnel chez Borrelia. Je te lis. C'est Mathias qui parle. « J'ai ce carnet sous les yeux en écrivant. L'encre noire a pâli, la graphie n'est pas évidente, on sent qu'elle écrit pour elle seule, mais ça se déchiffre pour qui fait l'effort de s'y habituer. Il y a quelque chose de déchirant à lire cela quand on connaît la suite. Bien sûr, elle ne peut pas savoir qu'elle entre dans la spirale. » Quelques phrases plus loin. « Entre ce jour de reprise du travail et la fin de l'année 2012, elle va couvrir de son écriture fine une trentaine de carnets. »
Oui, c'était important pour moi qu'il y ait ce dispositif, donc qui est celui d'une enquête. On est bien des années plus tard, le lecteur va mettre un peu de temps à découvrir quand exactement, et ce Mathias est intéressé par cette histoire, qui est une histoire de violence économique, de la façon dont le travail affecte nos esprits et nos corps. Il a le sentiment aussi que ça va lui permettre de raconter de l'intérieur l'histoire d'une entreprise, et qu'on ne fait pas assez l'histoire des entreprises. On la laisse souvent soit des espèces d'agiographes qui la font sur commande, donc à l'intérieur de l'entreprise elle-même, soit à des historiens, et d'ailleurs lui-même a une formation d'historien. Mais on essaye rarement de raconter cet échiquier où se déploient des jeux de pouvoir, des jeux de séduction très, très massifs, alors que l'entreprise est le théâtre majeur de la vie de dizaines de millions de personnes en France, de centaines de millions de personnes à travers le monde. Et donc, il va essayer d'intriquer ces deux choses, ces 3 années de la vie de Cora, jusqu'au plus intime, hein, c'est-à-dire jusqu'à ce qui a pu lui arriver comme aventure sentimentale, sexuelle, etc. Il s'entretient beaucoup avec elle pour ça. Il dispose des carnets où il y a ce matériau hâtif d'Icora. C'est une façon de s'analyser sans aller voir des psys. C'est une façon de jeter les choses qu'on a dans l'esprit par la fenêtre quand ça menace de déborder. Donc il y a quelque chose de l'ordre du sas ou de la décompensation dans ces carnets. Mais il va également aller voir, tu le disais, des collègues de Cora de cette période qui ont évolué ensuite diversement. Son ancien supérieur qui s'appelle Édouard, on en reparlera peut-être. Une collègue Astou, son ancien manager Franck Tomaso, qui est un peu plus difficile à approcher parce qu'il est en partie responsable, d'après ce que Mathias comprend, de ce qui s'est passé comme fait de violence. Voilà, il essaye d'avoir des points de vue multiples, de ne pas s'en tenir au seul point de vue du personnage principal, de Cora. Également parce qu'il sait bien qu'une entreprise, c'est un système où les contraintes pèsent sur chacun des acteurs et où les gens n'agissent pas forcément de leur propre gré, mais aussi en se demandant quel degré de violence ils sont prêts à infliger ou à subir, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour se maintenir en place, quelles orientations ils voudraient donner à l'entreprise en y arrivant ou au contraire en échouant à imposer leur vue, etc. Donc il essaye de ne pas isoler le drame, mais au contraire de le relier à tout un système de contraintes économiques et sociales.
Et alors, il va devoir aussi justifier son entreprise. Et il ne cesse de justifier, quand je dis son entreprise, pas l'entreprise Borrelia, ce qu'il entreprend, ce qu'il fait. Parce que pour Mathias, journaliste, ça veut dire qu'il y consacre son temps aussi à mener cette enquête. Et qu'il faut bien aussi qu'il la justifie, cette enquête. Voici notamment une des justifications. Ces 30 carnets, les photos de cette période et les autres témoignages que j'ai pu recueillir, c'est une archive vivante qui m'est tombée dans les mains par hasard, alors que je ne demandais rien à personne. Ou bien il n'y a pas de hasard, je cherchais quelque chose de ce genre, sans pouvoir le nommer ni dire pourquoi ça m'était nécessaire. Dans mon entourage, parmi mes amis ou au journal, les rares auxquels j'ai parlé du projet ont affiché des airs perplexes. Mes oreilles sifflent ces temps-ci, il doit y avoir des gens très bien qui s'inquiètent pour moi en prenant l'apéro. « T'as vu Mathias récemment? Tu crois pas que c'est la folie son truc? Qu'est-ce qu'il va perdre son temps là-dessus? Il lui reste 3-4 ans tranquille avant de faire des gosses, il a dans le ventre des reportages magnifiques et au lieu de s'y mettre, il se lance dans cette histoire qui risque de l'engloutir alors qu'il y a de fortes chances quand même que ça n'intéresse que lui. » Ceux qui disent ça, il y en a qui disent ça. Ils ont raison naturellement. C'est vrai que c'est une toute petite histoire parmi toutes les histoires du monde. Mais seulement jusqu'à temps qu'on se dise qu'il n'y a pas de petite histoire. Et il est sûr aussi que les faits ont eu lieu il y a longtemps maintenant, et que le plus sage serait sans doute de considérer qu'il y a prescription. Ce n'est pas le cas à mes yeux. Les affaires judiciaires sont prescrites. La mémoire des vies ne devrait jamais l'être. Car au changement de nom près, c'est de nous qu'il s'agit. J'aime beaucoup cette phrase, car au changement de nom près, c'est de nous qu'il s'agit. Parce que bien entendu, quand tu es romancier, tu changes les noms. On peut reconnaître des personnes, mais tu changes les noms, bien entendu. Et là, c'est important ça. Car au changement de nom près, c'est de nous qu'il s'agit. Le combat qui a cessé quelque part reprend ailleurs, et c'est le même combat. J'ai envie, j'ai besoin, je n'ai pas d'autre choix aujourd'hui que d'en porter témoignage. J'ai l'impression qu'en traverse cette justification que produit Mathias, et on comprendra dans le roman aussi qu'il y a une autre raison, mais ça c'est un secret, on ne le saura qu'après. Que c'est aussi la justification du romancier. Parce que peu à peu, Mathias prend de l'épaisseur, et on peut très bien imaginer que tu te reconnaisses, toi, Vincent Message, écrivain, dans l'entreprise de ce Mathias. Parce que c'est pas Mathias qui écrit, c'est toi, bien entendu. Et donc, c'est aussi la propre justification à ton travail. Et cette justification, c'est une toute petite histoire parmi d'autres. Et que cela est peut-être l'essentiel de la justification.
Oui, effectivement, il est construit comme une sorte d'alter ego de l'auteur. Alors, à ma différence, il est journaliste et on sent qu'il éprouve une frustration dans son métier de journaliste qui est de devoir obéir à l'actualité ou au choix d'une rédaction, aux consignes d'un chef, en faisant des papiers pour lesquels il peut prendre un certain temps. Hein, parfois, il fait des reportages, visiblement, mais pour lesquels il va jamais avoir le temps de creuser les choses. Et donc, pour lui, c'est aussi une forme de pratique qui permet d'équilibrer sa vie professionnelle, le temps court et contraint du journalisme. Et puis là, cette fois-ci, un livre sur quelqu'un d'autre, mais un livre plus personnel, et une enquête de long cours, immersive, dans laquelle il va vraiment avoir le temps de détailler les faits, d'essayer de comprendre comment les choses se sont enchaînées dans cette entreprise pour qu'il y ait une telle dégringolade dans la vie d'un certain nombre des acteurs qui la peuplent, dont évidemment d'abord au premier chef Cora. Voilà, le temps long. Évidemment, le temps long, c'est plutôt ça qu'on vit en tant que romancier. Et c'est un livre qui m'a accompagné quasiment 10 ans. Hein. L'idée, on est né en 2009, au moment où on commençait à beaucoup parler de la question des réorganisations du monde du travail et de la façon dont ça pouvait générer de la souffrance. Moment où la notion de risques psychosociaux a commencé à être formalisée, etc. Et je ne crois pas que ce soit des problématiques qui disparaissent une fois qu'elles sont apparues. Hein, 10 ans plus tard, on a un peu avancé, peut-être d'un point de vue juridique ou du point de vue de la prévention, mais enfin, quand je dis le combat qui a cessé quelque part reprend ailleurs et c'est le même combat, c'est bien cette idée que la violence est quelque chose, puisque c'est peut-être le grand thème du livre, hein, la violence économique, c'est quelque chose contre lequel il n'y a jamais de victoire définitive. On peut la résorber, mais il peut aussi y avoir des régressions. Elle peut réapparaître sous d'autres formes, c'est-à-dire que la violence du capitalisme contemporain que j'essaie de décrire dans ce livre n'est pas celle du capitalisme que décrit Marx Engels dans le Capital ou dans le Manifeste du Parti communiste. Ses formes évoluent, il y a de nouveaux esprits du capitalisme, pour citer le livre de Boltanski et Chiapello, qui est très très intéressant sur ce sujet. C'est un système qui donc peut récupérer la critique et donner raison à certaines des aspirations des acteurs qui le soutiennent. Par exemple, l'aspiration à être autonome, l'aspiration à être créatif. Voilà, les cadres d'aujourd'hui, dont Cora fait partie, sont censés avoir un peu de place pour ça, pour être force d'initiative, etc. Et en même temps, ça n'empêche pas forcément la violence de réapparaître sous d'autres formes. Donc il y a des métamorphoses, et elles m'intéressent beaucoup. Et c'est ça que Mathias essaye d'explorer. Évidemment, puisqu'il se promène avec un dictaphone, puisqu'il prend des notes, puisqu'il écoute les gens, là aussi il y a un effet de miroir par rapport au travail que moi j'ai pu faire en concevant ce roman, qui s'est beaucoup construit à l'écoute des voix du réel. Donc de gens proches ou inconnus qui me racontaient le monde du travail tel qu'ils veulent vivre ou le statut de jeune maman en entreprise tel que des amis ou des proches ont pu l'expérimenter. Donc je suis vraiment parti d'un matériau qui est le contemporain d'expériences indirectes, parce que c'est pas forcément la mienne, mais voilà, d'expériences relativement proche de moi, au sens où c'est la France, c'est Paris, c'est aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans mes précédents romans, hein, qui se passaient dans des réalités réalistes, crédibles, mais alternatives. Là, on est vraiment dans la France telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et Mathias fait le pari que raconter une vie peut avoir du sens, même si on est 7 milliards maintenant et que ce chiffre ne fait qu'augmenter, qu'il faudrait même, il a ce fantasme, raconter toutes les vies des gens qui ont vécu sur Terre. Il aimerait un monde où on ait le temps de faire ça. Et donc la vie de Cora, elle a évidemment, les gens peuvent s'y retrouver. On peut non seulement être en empathie avec elle, mais on peut aussi se dire qu'elle reflète des problématiques sociales bien plus larges, sans que ce soit pour autant de l'ordre de l'exemple ou de l'emblème, voilà. C'est plus diffus que ça. Mais en tout cas, il fait le pari que raconter une vie, c'est dire beaucoup d'une époque.
Et alors, raconter une vie, mais aussi toutes les vies. Bien entendu, nous avons les 3 années de la vie de Cora, mais nous avons aussi son passé. Nous avons aussi une partie de son futur. Et puis, il n'y a pas que Cora. Il y a bien entendu tous les autres personnages qui ne sont pas que des personnages secondaires, et que Mathias va raconter, que toi en tant que romancier tu vas raconter, avec, tu as dit le terme tout à l'heure, précision, minutie, maniaquerie presque, parce que c'est redoutable de précision, justement. Pour essayer de comprendre le drame final et de ne pas être dans une position de jugement, afin que Mathias fasse comprendre tous les tenants et les aboutissants, eh bien, chaque personnage, nous comprenons sa vie et nous comprenons les motivations de ses actions. Il y a donc des personnages, des héros, on va penser à Franck Tomaso par exemple, celui qui a un rôle, qui joue un rôle, il va y avoir Mangin, le directeur de Borrelia, et puis ben, il y a cette entreprise, Borrelia. Et d'elle-même, on ne peut pas dire que c'est un personnage, c'est une organisation. Et tu expliquais aussi que, à quel point c'était important, peut-être que la littérature n'avait pas assez travaillé ce sujet-là, de raconter une organisation, la vie d'une organisation. Donc Borrelia. Borrelia est une entreprise d'assurance, de mutuelle, et tu vas décrire précisément ce que c'est, comment elle est née, cette entreprise, comment elle a évolué, et par quelle influence de décision et de décisionnaire. Tu en fais un personnage et tu vas utiliser la même précision pour les personnages que pour cette organisation.
C'était un des paris esthétiques du livre que de recourir à cette précision. En fait, j'ai voulu écrire un roman qui soit une pure fiction, mais qui imite d'une certaine façon les méthodes et les procédures de ce qu'on appelle la non-fiction narrative ou la littérature du réel, etc. C'est-à-dire, Mathias mène l'enquête comme si ce cas était réel. Le lecteur se doute bien qu'il ne l'est pas. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour vérifier que Borrelia n'est pas une compagnie d'assurance française existante. Mais il y a suffisamment de détails qui sont donnés pour que ce soit comme une simulation grandeur nature d'une réalité qui pourrait très bien exister, qui est vraisemblable de façon très... jusque dans le détail. Je pensais effectivement que ça venait combler un manque. Moi, je suis assez sensible à ça. Je crois que pour écrire un livre, il faut à la fois une nécessité interne, intime, forte, qui fait qu'on peut se lancer dedans et avoir l'opiniâtreté de le mener à bien, même quand c'est un projet qui occupe quasiment une décennie, mais aussi une sorte d'appel d'air de l'époque. Et l'appel d'air de l'époque, ou du champ littéraire, en l'occurrence, ça me semblait être cette relative absence de récits précis sur les entreprises, au sens où ça a des raisons sociologiques, hein, les écrivains souvent ne travaillent pas en entreprise et les gens qui travaillent en entreprise, à l'inverse, n'ont pas le temps tellement de se consacrer à la littérature. Il peut y avoir des exceptions, hein, Michel Vinavert par exemple, au théâtre, il a pu être à la fois PDG de Gillette et puis un grand dramaturge, mais c'est vraiment très rare. Et dans le champ du roman, je ne voyais pas beaucoup d'exemples de ça. Or, c'est quand même très intéressant, cette histoire des entreprises. Je le disais tout à l'heure, c'est une sorte d'échiquier, il y a des pions qui se déplacent, et puis il y a toute une des cycles de vie aussi. Donc je prends cette mutuelle lorsqu'elle se crée en 1947, j'évoque le père fondateur et son fils. Au début, c'est une entreprise dynastique, c'est du capitalisme familial. Voilà, ça se passe en Auvergne, et l'entreprise va grandir jusqu'à ensuite s'implanter à la fin des années 70 vers Saint-Lazare, à Paris. Et puis... je décris aussi du coup un changement de mentalité, que ce soit dans le capitalisme en général, on passe d'une structure très paternaliste, très hiérarchisée, à cette structure qui se veut plus égalitaire, moins sexiste, mais qui donnant plus d'autonomie à chaque acteur, mais qui en même temps exerce plus de pression probablement sur le temps de travail, sur y compris la déconnexion par l'esprit le week-end ou lors des vacances. Donc quelque chose qui prend le corps entier et la tête entière. Et puis en ce qui concerne ce métier des assurances, à l'origine c'est un métier de solidarité, c'est un métier social, c'est un métier qui évolue avec les risques et pour en faire en sorte que les vies ne soient pas réduites à néant par des drames ou des accidents. Évidemment, toute l'ironie de l'histoire, parce que l'ironie est importante dans ce roman, c'est que Cora, qui travaille pour prévenir les risques, va être elle-même exposée à un risque qu'elle n'a pas vu venir. Là où le métier de l'assurance, c'est de prévoir, ben là, ce risque-là, elle ne le voit pas arriver dans son dos, et qui est un risque pourtant majeur, qui est un dommage irréparable, qui est quelque chose voilà, contre lequel on ne peut plus rien faire une fois que ça s'est produit. Et ce métier d'assurance, donc, aujourd'hui, c'est devenu un métier de données, c'est devenu un métier où on cherche à responsabiliser de plus en plus les individus, à affiner leur connaissance du risque pour qu'ils fassent leur choix de vie en connaissance de cause. Et donc, vous ne serez pas assuré au même prix si vous fumez ou si vous ne fumez pas, si vous faites des sports dangereux ou si vous jouez au bridge. Et tout est assuré dans notre monde, du visage des mannequins aux pieds des footballeurs, aux bâtiments dans lesquels on habite et aux vies qu'on mène. Donc, ça m'intéressait de parler de ce métier, précisément parce que c'est un vieux métier du capitalisme, indispensable, dont tout le monde reconnaît la nécessité, assez noble, permettant d'éviter quand même beaucoup de destruction matérielle, mais aussi de santé, etc., dans nos existences. Et en même temps, un métier qui s'est financiarisé et qui donc incarne aussi ce que le côté mange-tout du capitalisme, hein, le fait qu'il cherche à tirer profit du moindre événement, hein, les événements de vie, divorce, décès, achat d'une nouvelle voiture, accident, sont des occasions de business, de profit pour ce domaine-là. Donc c'est plein d'ambivalence et je voulais justement explorer ces ambivalences en montrant des gens qui font leur métier d'abord plutôt avec passion ou en tout cas avec intérêt et ensuite ce qui peut éventuellement les aliéner et vider de sens leur pratique professionnelle.
Et alors on rentre dans les débats internes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin à plusieurs moments même, parce que tu as un art de raconter les scènes et de nous les faire vivre et ressentir, on est dans cette salle de réunion où se réunissent régulièrement les dirigeants, donc la réunion de direction en fait, et où chacun défend des points de vue antagonistes. J'ai en mémoire cette scène où soudain le directeur, Mangin, va virer Edouard, voilà, qui était très ami avec Cora, c'était le supérieur hiérarchique de Cora, il la défendait, et puis lui défendait ce qu'il ressentait, quelque chose de très profond en lui, et il ne pouvait pas faire autrement, et ça va aller jusqu'à la rupture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, son supérieur lui dit non, là, on ne va pas pouvoir continuer ensemble. Quoi. À un moment donné, non, ça va pas le faire, ça ne va pas être possible. Scène cruelle, mais existante, bien entendu, dans les vies professionnelles. Et donc, nous allons comprendre les choix de la direction de l'entreprise. Pourquoi ça va aller dans ce sens-là, Borrelia, plutôt dans tel autre? Eh bien, tout ça nous est vraiment énoncé très très précisément. J'imagine la documentation que tu as dû avoir, enfin lire sans doute des magazines comme Management ou Forbes, enfin voilà, comprendre comment ça se passe à l'intérieur, quoi, pour pouvoir raconter ces scènes-là. Et alors, tu vas toujours être sensible au sens du détail pour nous expliquer ce que cela produit chez les personnes et notamment chez Cora. Et je pense à cette scène où le siège va déménager de Saint-Lazare, ça ne va plus être possible pour des raisons de coût, et Borrelia va s'installer dans une tour, la tour Galaxie, à La Défense. Et là, on comprend ce que ça fait de travailler dans une tour. Je ne me suis jamais posé la question de ce que ça faisait de travailler dans une tour. Voici quelques éléments. Elle découvre, donc c'est Clara, elle découvre ce qu'est une tour, ce que c'est de passer ses journées au 27e étage à 110 mètres du sol. Elle s'est rendue compte, dès les premières heures, avec une montée d'angoisse, qu'il n'y avait nulle part, ni dans les bureaux, ni dans les couloirs, de fenêtres qu'on puisse ouvrir. Et cette question des fenêtres revient sans cesse dans ses pensées. Elle cherche les raisons. On ne peut sûrement pas se permettre, à cette hauteur, de laisser à des individus globalement compétents, mais en définitive très ordinaires, le soin de décider quand il est pertinent ou non de renouveler l'air qu'ils respirent. Pour peu que deux d'entre eux, à des angles différents de la tour, soient touchés par la grâce synchrone de cet esprit d'initiative, et la bourrasque s'engouffrerait, forçant tout le monde à marcher courbé vers l'avant et en se tenant au mur dans des rafales de menus objets de bureautique, post-it, trombone, agrafe et des feuilles de brouillon. Une simple fenêtre ouverte, et ce serait la pluie et le froid qui viendraient détraquer tout le système de climatisation, foutant en l'air le travail indifférent mais minutieux d'ordinateurs qu'on payait pour qu'ils calculent les variations de température et le taux d'humidité.
Oui, là, je m'amuse, hein, avec cette vision semi-fantasmatique, hein, du travail dans la tour. On est dans l'entreprise. C'était très important pour moi qu'on y soit immergé et donc qu'on participe à ces conflits internes. Donc, pour revenir à ce que tu racontais un peu plus tôt, Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh ben, en 2010, cette entreprise va mal parce que elle s'est trop exposée aux banques. Or, les banques dégringolent avec la crise financière des subprimes, hein, ces prêts hypothécaires contractés par les ménages américains et qui sont pas solvables en fait. Et donc, au lieu de se rester sur son métier d'assurance, sur son cœur de métier, Borrelia a trop prêté à des banques. Du coup, il y a nécessité de réduire nettement la voilure. Et il y a débat, évidemment, pour Edouard. Ce qu'il faudrait faire, c'est justement désinvestir des emprunts les plus risqués, des banques les plus fragiles, et gérer autrement les actifs. Mais ce n'est pas ce qui rapporte le plus de dividendes. Et donc, il y a une autre piste qui est suivie, ce qui est celle d'une réduction de coûts importante. Quand on réduit les coûts, on commence souvent par l'immobilier, parce que c'est vraiment un poste de dépense majeur dans les entreprises, d'où ce déménagement à La Défense, qui reste un site de prestige, hein. Ils ne vont pas en banlieue nord-est, etc. Mais quand même, ils vont rassembler plus de gens sur des plateaux, en open space. Le bâtiment de Saint-Lazare, ils vont pouvoir le vendre assez cher. Donc, ça les arrange. Et puis, on dit aussi que si on fait ça, c'est pour éviter, à l'inverse, de devoir faire des plans sociaux. Mais c'est souvent une deuxième vague, on n'arrive pas toujours à l'éviter, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a taillé dans les frais généraux, dans certaines fonctions support, je sais pas, on fait des économies de transport, d'informatique, d'achat, de matériel et tout. Souvent, le deuxième temps, c'est quand même ensuite le personnel. Dans un métier qui plus est, où voilà, ça a beaucoup évolué et donc la gestion de sinistres, beaucoup de choses se font en ligne. Voilà, Internet joue un rôle majeur de déstabilisation aussi de ce secteur et j'essaye d'évoquer ça. Et ce qui m'intéresse, le passage que tu as lu en rend bien compte, c'est de voir les conséquences sur les vies personnelles. Donc cet Édouard qui s'était beaucoup investi pour cette entreprise, qui occupait d'ailleurs un poste pas forcément hyper valorisé pour un homme de son profil et de son âge, il a fait plutôt des ressources humaines et du marketing, alors que les carrières masculines se font parfois plus souvent en stratégie, en finance, ou vraiment du côté technique, hein, donc les actuaires en assurance. Bah, lui, il est plus de la partie. Et puis Cora, son temps de trajet est doublé. Quand elle arrive, elle a déjà l'impression d'avoir passé une journée pleine dans les transports, pas tellement ils sont compressés. Et physiquement, que ce soit la perturbation sonore de l'open space, la difficulté à se concentrer, elle va vivre tout ça de très près, y compris en essayant de résister, de protester, de demander à ce qu'il y ait des cloisons qui soient posées, de demander à passer en télétravail, etc. Alors ça paraît très prosaïque. Mais en même temps, c'est décisif, hein, sur la texture de notre quotidien. Par exemple, je pense moi que si la lecture est une expérience si agréable, c'est parce que c'est une expérience de la concentration. Et que les gens qui, comme elle, ont des conditions de travail dégradées au point qu'ils ne peuvent plus se concentrer, peuvent très vite être mis dans une souffrance morale profonde, avoir l'impression qu'ils ne servent à rien, que leur temps ne sert à rien, puisqu'au bout de 2 heures, ils n'ont pas avancé dans des tâches sans cesse interrompues par différentes perturbations, etc. Et ce prosaïsme, j'ai essayé de le compenser par plusieurs choses esthétiquement. D'abord par l'humour, par la satire de la vie de bureau, etc. Là, on peut vraiment s'en donner à cœur joie, il y a vraiment de quoi faire, mais il faut que ça reste littéraire, c'est-à-dire que c'est pas forcément potache, c'est plus profond que ça. Et également par une forme de lyrisme, parce que c'est aussi très beau cette tour. Cet environnement, ce parvis de la Défense, les tours qui semblent se donner la main, les vues sur la région parisienne qu'on a, les couchers de soleil. Là non plus, il ne faut pas être manichéen. Cora est sensible au fait qu'elle travaille dans un endroit qui n'est pas banal et qui peut plaire à plein de gens, qui est architecturalement intéressant, qui, elle, lui donne des choses à voir en tant que photographe, les nuages, les reflets, etc. Et ça aussi, ça participe de son quotidien, donc ce qui vient hanter ses pensées. Néanmoins, ça ne suffit pas à contrebalancer tout à fait le caractère parfois chronophage, parfois dégradant, parfois très fastidieux, ennuyeux ou n'ayant pas ne correspondant pas à ses valeurs des tâches qu'on va lui donner à faire progressivement.
Et alors, si on prend juste cet exemple des tours, dans ta manière de procéder, qui est la manière de Mathias, mais qui est donc la tienne également, eh bien, ça donne l'impression que tu essayes d'épuiser au maximum toutes les données du sujet. Si on prend cette histoire de tour, eh bien, nous avons le point de vue de Cora, qui se dit, oui, mon temps de travail, mon temps de trajet est plus long. Or, tu vas raconter, quand son temps de trajet était plus court, quand tu as travaillé à Saint-Lazare, les moments qu'elle pouvait vivre avec son amoureux, Pierre, son mari, le matin. C'était des matins merveilleux. Tu nous les racontes. Et donc, on se dit, ah, ça, c'est perdu. Ça, c'est gâché parce qu'il y a un temps de trajet supplémentaire. Et puis, cette histoire de Tours, effectivement, elle y trouve aussi des avantages photographiques. Parce qu'elle voit qu'elle peut peut-être avoir une prise là-dessus et d'utiliser l'art peut parfois nous faire penser à autre chose. Et puis, nous avons, bien entendu, sa confrontation avec son supérieur hiérarchique qui va lui expliquer que bah, ça a des avantages, cette tour, et qu'à un moment donné, il faut qu'elle voie aussi les avantages. Regardez, on a une belle vue. Ben oui, ça y participe aussi. Et ça donne l'impression d'avoir à chaque fois l'argument pour, l'argument contre, et que tu épuises les arguments contradictoires. Et donc, ça me refait penser à ton livre Romancier pluraliste. C'est-à-dire que j'ai l'impression, refermant ton livre, d'avoir une pluralité de points de vue, d'opinions et de propos contradictoires, si bien qu'à aucun moment tu es dans le jugement, et nous, lecteurs, on va être dans le jugement de dire ça c'est vraiment, mais quel infâme salaud, ça c'est nul. Non, parce que si à un moment donné il peut y avoir une sorte d'infâme salaud, on comprend toutes les raisons qui l'ont poussé à agir de cette manière-là, et donc on comprend que ce n'est pas un infâme salaud. Je veux en venir au fait que, en ayant tous ces détails-là et ces précisions-là pour l'entreprise Borrelia et ce qui va se passer pour Cora, donc qui en fait partie, eh bien, on peut imaginer que c'est lié à ta frustration, peut-être, que tu as ressentie ou qu'on a pu ressentir lors des événements de l'entreprise Orange, du passage de France Télécom à Orange. On comprend qu'il y a eu le procès Orange. J'ai compris que tu y avais assisté parce que tu as fait un long article pour le journal Le Monde. Et tu disais, voilà, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à réfléchir à ce roman, et c'était l'événement, enfin c'était, voilà, dans le monde de l'entreprise, c'était très très marqué par les événements d'Orange, ces dramatiques suicides, et son plan Next, qui a été expliqué dans les médias, et c'est là où on comprenait un peu la vie des... Enfin moi en tout cas aussi, c'est là où j'ai compris, ou en tout cas senti ce qui pouvait se passer dans une entreprise de terrible, parce qu'il y avait des plans de restructuration. Et j'imagine que la manière dont tu as pu te documenter sur l'entreprise Orange et ce qui s'était passé, d'avoir assisté au procès, avait peut-être éveillé en toi une sorte de frustration de te dire, mais là, j'ai pas tout. Je n'ai pas, il me manque encore des choses que tu fais ressentir justement dans ton roman qui a ce temps long et infiniment long pour pouvoir décrire les pour, les contre et tous les points de vue.
Il y a deux pôles de valeur dans le monde contemporain, enfin parmi d'autres, mais il y a l'artiste. Et puis l'entrepreneur ou le cadre d'entreprise. Et ça correspond à des manières d'agir sur le monde qui sont reconnues comme également nobles, mais qui sont très lointaines les unes des autres et qui en large partie s'ignorent. L'artiste, il est seul assez souvent, il peut être précaire, mais il a une visibilité, il associe son nom à une œuvre qu'il produit publiquement. Le cadre d'entreprise, il est dans une structure collective, il est souvent plus stable, même s'il peut connaître ce genre d'événements économiques, de restructuration, de pression sur son travail. Mais globalement, c'est une vie plus assurée. Et en même temps, à l'inverse, ce qu'il produit se perd dans quelque chose de beaucoup plus vaste que lui. Et il est particulièrement compliqué, pas forcément de quantifier ce qu'il apporte, parce que ça, maintenant, le management le fait, mais que ça prenne sens pour la personne en question. Et donc, évidemment, je crois que cette opposition de valeurs est une raison pour laquelle la littérature maltraite souvent l'entreprise et donne plutôt dans la charge pamphlétaire ou dans l'ignorance. Il y a énormément de livres qui éludent le sujet, où les personnages ont un travail, mais en fait, on ne va pas dire lequel vraiment, ou alors si on dit lequel, mais on ne mentionne pas du tout en quoi il consiste concrètement et quel type de journée ça fait, etc. Donc, j'ai un peu construit Cora dans la spirale sur cette absence. En me disant cette fois-ci, on va représenter l'entreprise. Évidemment, ce qui est attendu, c'est une critique au vitriol, donc on ne va pas prendre cette option-là. On va faire de la critique, mais au sens noble du terme. Et la critique au sens noble, c'est à charge et à décharge. De ce point de vue, il me semble y avoir une sorte d'analogie entre la pratique du romancier et la pratique du processus judiciaire. Hein, on donne le droit aussi à la défense de s'exprimer, on va garantir les droits de la défense. Je trouve ça intéressant de transposer ça au traitement qu'on réserve au personnage d'un roman et d'être dans une empathie équitable, c'est-à-dire que l'empathie aille à tous les personnages et pas seulement au personnage principal. Donc là où j'aurais pu écrire une histoire de harcèlement moral simple qui se serait réduite à un duo victime-bourreau, et le bourreau est méchant parce que c'est comme ça, c'est son être profond, et la victime se retrouve embarquée dans un statut qui n'est plus tout à fait celui de la dignité, du sens de la dignité qu'elle avait d'elle-même, mais voilà, elle se retrouve comme ça, à subir. Non, je voulais montrer au contraire the big picture, hein, donc tout le système qui environne ces cas-là et qui les cause et qui font que le harcèlement n'est pas le seul sujet du livre et ne se comprend jamais de manière isolée. Donc, bien sûr, c'est passé par un effort d'enquête sur pas mal d'entreprises. Hein. Orange était loin d'être la seule entreprise à aller mal dans les années 2008-2012. Dans le domaine de l'assurance, Groupama allait très mal. Aux États-Unis, il y a même une énorme compagnie d'assurance, AIG, qui a failli faire faillite, mais que Washington a sauvée à coup de milliards de dollars parce qu'elle était trop importante pour s'effondrer, contrairement à Lehman Brothers qu'on a laissé s'effondrer. Et j'essaye de restituer tous ces points de vue. Alors, je peux prendre un exemple différent de celui que tu as donné toi, pour qu'on ait une vision un peu plus globale du livre. Il y a un personnage de consultante, Delphine Cazère, qui arrive à un moment donné et elle fait une mission pendant quelques mois dans la boîte, qui est clairement une mission de réduction de coûts, d'optimisation de la performance par rapport aux concurrents. Borrelia étant un peu en retard dans un certain nombre de domaines. Bon, bah, elle, avec qui Cora se lie, elle croit assez profondément au capitalisme libéral. Elle vient d'un milieu plutôt modeste, elle a fait une belle ascension, elle gagne très bien sa vie, elle a entre 26 et 30 ans, elle est vraiment brillante, elle bosse dur. Elle voit très large, et en voyant très large, elle dit, on peut dire pique-pente du capitalisme, mais il est moins violent aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Il y a plus de pays démocratiques, il y a plus de et c'est en partie dû à la mondialisation commerciale. Au sein des entreprises, elles sont moins sexistes, elles sont moins homophobes, elles sont moins racistes. Donc, ne disons pas que tout va mal. Le capitalisme et l'intensification des échanges qu'il a apporté est cause d'un certain nombre aussi de bienfaits qu'on ne perçoit plus au quotidien, parce que l'esprit humain est fait pour se focaliser sur ce qui reste comme problème, sur ce qui ne va toujours pas, etc. Au procès Orange, les prévenus, donc j'ai assisté à beaucoup d'audiences, mais le roman était fini, donc ça ne l'a pas du tout fait bouger, mais simplement moi ça m'a intéressé d'un point de vue personnel, d'un point de vue citoyen et politique aussi. Les prévenus ont montrer dans quelle nasse il se trouvait pour transformer cette entreprise en quelques années face à l'irruption de la concurrence, de Free par exemple, face au passage massif au mobile, face à l'arrivée d'Internet et donc aussi des messageries en ligne, et que le métier avait énormément évolué. Il n'était pas possible de maintenir en poste les gens sur les postes qu'ils occupaient. Voilà. Donc il y avait une transformation drastique de l'entreprise à mettre en place. Voulue par aussi d'autres responsables, hein, qu'on peut pointer du doigt. L'Europe, la Commission européenne, Bercy pour ce qui est de la libéralisation du secteur des télécoms, etc. Mais moi, ce qui m'a intéressé en suivant ce procès, c'est qu'au fond, mon opinion vacillait. C'est-à-dire que je pouvais entendre la défense des avocats, des prévenus ou des prévenus eux-mêmes et les trouver assez convaincants sur tel point précis. Et puis ensuite, entendre un témoin ou une partie civile et me rendre compte qu'il y avait vraiment eu des méthodes de management très, très violentes, mal contrôlées, que les consignes pour que les choses se passent bien n'avaient pas été données. Au contraire, on avait peut-être plutôt donné des consignes pour pousser les gens vers la sortie. C'était d'une complexité diabolique. Voilà. Et évidemment, moi, c'est ça qui m'intéresse en littérature, c'est la complexité diabolique, c'est-à-dire le fait que le lecteur, la lectrice balance et se dise, change aussi d'avis, se dise, effectivement, il faut entendre tous les points de vue, il faut voir jusqu'à quel point je peux être d'accord avec le point de vue de mon adversaire idéologique ou de mon ennemi personnel. C'est ça le pluralisme hein, sur lequel j'ai un peu travaillé, tu le rappelais, à partir de romans, de Musil, de Pynchon, de Salman Rushdie, d'Edouard Glissant, dans un essai qui s'appelle Romancier pluraliste. Pluralisme, ça consiste à se dire j'ai une position, mais je vais chercher à l'autocritiquer, et à l'inverse, je vais chercher à intégrer les raisons de mon adversaire, de celui qui n'a pas les mêmes valeurs que moi ou pas les mêmes intérêts que moi, voir jusqu'où il est légitime dans son point de vue et sa démarche. Puis à partir de quel moment, non, vraiment, il y a une ligne rouge, je ne suis plus du tout d'accord avec la façon dont il raisonne, procède, agit, etc. Et montrer des personnages qui se posent ce type de questions, qui cherchent quand même à écouter les autres, qui font des concessions, l'entreprise c'est une négociation perpétuelle, mais comme la vie de couple ou comme la vie de famille plus généralement, c'est-à-dire que voilà, on cède du terrain, on accepte quelque chose avec quoi on n'est pas tout à fait d'accord ou c'est pas notre manière de vivre ou de voir les choses, et puis en échange on obtient d'autres choses. Cette négociation-là, elle me paraît très narrative, et puis parfois les gens sont obligés de céder trop sur ce qu'ils pensent, ce à quoi ils croient, sur leurs valeurs, et ils se mettent à aller mal pour ces raisons.
Alors, je me suis posé cette question de ton parcours créateur avec l'éveilleur, des fêtes des maîtres et possesseurs, où il y avait une part d'imaginaire qui était très 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 forte. Et je me suis rendu compte que peut-être ce qui pouvait caractériser ta ligne créatrice, c'était pas tant l'imaginaire que cette recherche de points de rupture, de là où ça casse. Parce que le roman Cora dans la spirale tient parce que on veut savoir quel est le drame, qu'est-ce qui va se passer. Et il nous surprend. Et il est dramatique. Et il est terrible. Et nous n'en dirons pas plus. Mais tout le moment du roman, tout ce que va raconter Mathias, c'est pour le journaliste, c'est pour aller jusqu'à voilà, il s'est passé ça. Maintenant que vous savez ça, bah vous avez parcouru 450 pages et vous avez tous les tenants et les aboutissants afin de, pas juger, mais d'essayer de tenter de comprendre quelque chose qui est de l'ordre de l'inexplicable, parce que tout drame définitif est inexplicable. Et repensant aux veilleurs, repensant à des fêtes des maîtres et possesseurs, je m'étais dit que c'était peut-être ça qui t'intéressait, ce moment où ça rompt, où ça casse une limite. Je ne sais pas si ça peut être une piste, mais Cora dans la spirale est tellement différent dans son ambition d'imagination. Il y en avait une puissante dans Les Veilleurs, il y en avait une puissante dans Défaite des Maîtres et Possesseurs, et tu l'as évoqué il y a quelques instants en disant que c'était des récits de l'ordre du plausible, mais la part d'imagination était importante. Là, non, on est dans le concret, dans ce qu'on va appeler peut-être improprement le réel, c'est l'action qui se fait au quotidien de nos jours dans notre société actuelle, mais qu'il y a, j'ai imaginé ce point commun de la cassure.
Oui, j'y ai pas pensé en ces termes, mais c'est toujours intéressant d'entendre des échos comme ça qui cherchent à diagnostiquer quelque chose qui se produit de manière récurrente dans des livres. Je fais assez confiance à l'inconscient hein, pour créer de la continuité. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'écrire des livres très différents les uns des autres en me disant, oui, bah, de toute façon, je suis à peu près la même personne, j'évolue, je change quand même un peu, mais bon, l'inconscient tissera les fils. Le point de cassure, oui, j'y crois assez au sens où, en tout cas, je suis obsédé par la violence qui nous est faite, qui est moins forte, je pense, qu'il y a quelques siècles. Hein. On vit une période, en France en tout cas, et pour les gens de classe moyenne ou de classe aisée en France, une période assez bénie du point de vue de la violence. On y est beaucoup moins confronté que la plupart des humains depuis que l'espèce existe. Mais néanmoins, pour moi, ça reste insupportable. Dans Les Veilleurs, le héros Nexus tombait dans la violence. Il tuait des gens dans la rue. Mais parce qu'il était lui-même très marginalisé, très isolé, victime d'une forme de violence urbaine plus générale, désocialisé, etc., asséché par la rationalité telle qu'on lui demandait de l'appliquer, et telle qu'il la voyait être le critère dominant de la civilisation dans laquelle il est. Et de ce point de vue, il a des points communs avec Cora, elle aussi est asséchée par le rationalisme économique. Et puis dans Défaite des maîtres et possesseurs, c'était plutôt la violence faite aux vivants, faite aux non-humains, avec un point de rupture au moment où le narrateur Maloclès, qui a, qui n'est donc pas humain, qui fait partie de ces nouveaux maîtres qui ont pris la place des hommes et qui les ont réduits en esclavage, se rend compte que cet esclavage n'est pas éthiquement tenable et va essayer de prendre fait et cause pour les hommes et d'améliorer leurs conditions de vie et de fin de vie. Et donc, il y avait aussi une volonté de résister à la violence ou de se retrouver du côté de la solution et plus du problème, donc de ceux qui cherchent à minimiser la violence et plus de ceux qui sont un rouage qui lui permet de fonctionner de façon régulière et massive. Cora aussi, d'une certaine façon, elle va essayer, quand elle voit que ça tourne mal, de s'opposer à un plan social, à l'éviction de certains collègues. Elle donne de la voix, mais elle est prise dans quelque chose de plus fort qu'elle et bon, elle va avoir un succès assez divers, mais bon, elle échoue sur pas mal de points dans ce processus de mise en résistance. Du point de vue esthétique, je pense que ce qui relie ces livres, c'est aussi la volonté d'un équilibre entre des composantes différentes. C'est-à-dire que je cherche l'équilibre entre les points de vue, on en a parlé, mais je cherche aussi l'équilibre entre l'action et la réflexion, par exemple. Voilà ce qui fait tourner les pages et ce qui fait qu'on a envie de savoir ce qui se passe après. Et puis des personnages qui s'interrogent plus sur le sens de leur existence, sur le sens de leur travail, sur est-ce que mon couple, est-ce que ma vie telle qu'elle s'est construite me convient encore, etc. Donc des moments peut-être plus statiques ou plus introvertis qui sont ceux de la méditation et de la réflexion. Cet équilibre-là, il compte beaucoup pour moi. Une autre chose, c'est la grande liberté, c'est se donner tous les droits en termes de phrases, par exemple. J'ai pas une phrase. Il y a des écrivains qui ont une phrase, elle est longue ou elle est courte, elle est à tiroir ou elle est sèche, et ils y restent, ils s'identifient à cette phrase. Moi, ça dépend vraiment de ce que je raconte. Un passage de course effrénée dans une gare parce qu'on est en retard à un concert, c'est ce qui arrive à Cora un soir à Saint-Lazare, ne va pas être raconté sur le même rythme qu'un moment beaucoup plus contemplatif sur une plage en Normandie où elle prend le temps de regarder chaque chose, chaque objet, la manière dont la lumière dessine le contour d'un voilier ou d'une falaise. Donc je crois vraiment à ça, adaptation du lexique, de la phrase, du style à ce qui est en train d'être dit. Et pour revenir sur la question de l'imaginaire et du réel, alors il y avait beaucoup de réalisme dans les romans précédents, au changement de nom près, pour reprendre cette expression que tu aimes bien. Voilà, on était clairement dans notre monde occidental, avec ses grandes villes, avec son système de production un peu délirant, consommant les ressources, les épuisant. On n'était pas très loin, simplement, ça n'était pas la France, ça n'était pas les États-Unis, c'était nulle part et partout. Et là, j'ai choisi autre chose parce qu'il me semble que Paris est un territoire très balisé littérairement, la France aussi, mais au bout de quelques années d'expérience en tant que vivant et en tant que romancier, je me mettais à voir ce que je pouvais en dire littérairement qui n'avait pas encore déjà été dit. C'est-à-dire, c'est quoi le Paris d'aujourd'hui pour les gens qui prennent les transports pour aller travailler dans des tours à la Défense? C'est quoi la France de gens qui viennent de régions assez pauvres et assez désertifiées comme les Cévennes et qui du coup n'ont pas d'attache ailleurs en province et du coup ne peuvent pas trop se poser la question de quitter Paris parce que au fond c'est là qu'il y a du boulot pour eux et il n'y a pas d'autre lieu évident. Le lieu dont ils viennent est trop pauvre pour y travailler et il n'y a pas d'autre lieu évident en France qui ne soit pas Paris. Voilà, ce genre de questions, ajouter une strate, presque au sens géologique, à ce grand mythe qu'est la France en littérature, et Paris en particulier, ça me tenait à cœur, et du coup j'ai voulu être réaliste, mais jusqu'à la poésie, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait une poésie des noms propres. Elle prend sa voiture et elle voit les panneaux qui indiquent des directions sur l'autoroute, Le Havre, Fécamp, Saint-Valery-en-Caux, Dieppe, etc. Et ça devient de la poésie, où elle a un quotidien minuté dans ses déplacements parisiens, mais ce jeu du chronomètre et ce jeu des noms des stations de métro devient aussi une forme de poésie. Donc on peut réinjecter du lyrisme. Pour moi, c'est une manière d'équilibrer les choses, puisque j'ai ce souci de l'équilibre par rapport à la représentation d'un monde de l'entreprise qui est très narratif et passionnant, mais qui est aussi un peu austère. Et pour Cora, même chose, c'est-à-dire qu'elle a besoin de ce lyrisme, de le réinjecter dans sa vie, d'écouter de la musique, de parler avec des gens de cinéma ou d'avoir des temps consacrés à la passion amoureuse et absolument pas à quelque autre souci que ce soit, parce que ce qu'elle fait dans son quotidien professionnel demande beaucoup d'énergie, demande d'être efficace, demande de jouer à l'animal social et à l'homo economicus et qu'il faut compenser par ailleurs.
Merci beaucoup, Vincent Message.